deux grains de grenade, conte du Maghreb, établi et traduit par J. Sel Mili. Deuxième cassette, deuxième face, page 85. Suite et fin de l'histoire, petite massue, fais ton métier. Le bûcheron rentra chez lui. Il demanda à sa femme si elle avait prêté son moulin. Elle avoua l'avoir confié quelques heures à sa voisine pour l'aider à préparer sa réception. Le bûcheron dit alors « Nous allons rendre cette invitation. Va inviter les voisins ainsi que d'autres amis pour éviter qu'ils aient quelque défiance. » Quand les voisins arrivèrent, on les distribua dans deux pièces différentes, les voleurs restant dans la pièce où se trouvaient le maître et la maîtresse de maison. On servit un magnifique couscous assorti de légumes et de viande. Au moment d'attaquer le plat, le bûcheron mit sa petite massue sur le sommet du cône de semoule et apostropha ses voisins. « Nous vous avons prêté notre moulin, mais vous nous l'avez échangé contre un autre qui ne marche pas. » Les voisins jurèrent en prenant le ciel et la terre à témoin qu'ils n'avaient jamais fait chose pareille. Alors le bûcheron dit simplement « Petite massue, fais ton métier. » Et la petite massue donna aux voisins une volée de coups qui les mit en sang. Et pan, et pan, et bing, et boum, et pan, et pan, et pan. Finalement, ils se levèrent et s'enfuirent. Mais la massue les suivit jusque chez eux. « Pan, 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 palabam, pan !» Le bûcheron leur cria « Rendez le moulin, sinon elle vous frappera jusqu'à la mort !» Tout honteux, les coupables rapportèrent le moulin. Et le vieux bûcheron put continuer à faire vivre sa famille en paix, tandis que le djinn s'épanouissait dans son vieux chêne. La dixième histoire s'appelle le roi, le cadi, C-A-D-I, ça veut dire le juge, et les pauvres. Il était une fois un empire composé de multiples royaumes, dont le roi des rois, celui qui commandait à tous les royaumes de l'empire, était renommé pour sa sagesse et son immense charité. Chacun savait que n'importe quel mendiant pouvait venir frapper à la porte du palais à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, et le roi des rois en personne venait lui donner à manger et le servir. Il est certain que cette pratique donnait lieu à quelques abus, car le roi avait aussi bien d'autres obligations d'État et ne disposait que de 24 heures par jour comme tous les mortels. Les vizirs, c'est-à-dire les ministres, craignant pour sa santé, finirent par faire proclamer dans la ville que le roi ne donnerait la charité que de telle heure à telle heure. Un panneau affiché sur le mur extérieur du palais confirmait cet avis. Les mendiants de la ville, informés, tinrent compte de cet horaire. Mais un jour, un mendiant venu d'un lointain pays où la renommée de générosité du roi des rois était parvenue, se présenta au palais à minuit. Il ne connaissait pas la nouvelle réglementation, il n'avait pas lu l'avis, aussi bien il était aveugle, et c'est dans la nuit qu'il fit entendre sa complainte. « Ô maître, j'ai faim, donne-moi quelque chose pour l'amour de Dieu !» Le roi des rois entendit son cri. Il se redressa sur le coude, puis il se dit que le règlement faisait loi, et se retournant sur son lit de l'autre côté, il se rendormit. La voix reprit. « Ô maître, j'ai faim. Donne-moi quelque chose pour l'amour de Dieu. » Le roi se réveilla de nouveau, se fâcha, convoqua un garde et lui dit de mettre l'importun à la geôle pour la nuit. Puis le roi se rendormit. Pshhh. Alors, Sidna Jabril, c'est-à-dire l'ange Gabriel, le messager de Dieu, vint le réveiller en lui disant « Sire, vous êtes dans l'erreur, vous aurez à payer cette faute. » Le roi crut à un mauvais rêve. Il dit la basmalla, c'est-à-dire l'invocation religieuse, la prière, « Au nom du Dieu clément et miséricordieux, pour écarter celui qu'il croyait être, Satan le lapidé, le diable. » Puis il se retourna encore et se rendormit à nouveau. Mais Sidna Jabril, l'archange Gabriel, le réveilla à nouveau. « Je ne suis pas Satan, le diable. Inutile d'appeler Dieu au secours. Au contraire, je viens vous dire de sa part que c'est une erreur d'avoir refusé à l'aveugle la charité et de l'avoir emprisonné. Il n'y a pas d'heure pour la charité. Je vous signifie une punition de Dieu qui durera 7 ans. » Le roi était accablé. Il pria Sidna Jabril de l'excuser auprès de Dieu et de solliciter pour lui que cette punition intervienne maintenant où sa santé était encore bonne, car plus tard il serait vieux et risquerait de mourir dangereusement sans avoir terminé sa peine. Sidna Jabril transmit sa prière et Dieu accepta que la pénitence commença aussitôt. Le roi se leva donc. Il alla demander pardon au prisonnier, le servit et lui donna une provision de voyage. Puis il partit en exil pour que son peuple ne le vît pas dans cette phase critique de sa vie. Il avait pris la précaution d'emmener avec lui des mules chargées de pièces d'or de façon à distribuer de l'argent aux malheureux tout le long de son chemin. À quelques kilomètres de là, une rivière barrait la route. Il fallait que la caravane la passe à gué. Les mules et le cheval du roi perdirent pied. Le roi seul atteignit l'autre rive, à grand-peine, et il se retrouva sans monture et sans or. Il continua sa marche à pied. La faim le saisit. En traversant une plaine, il rencontra un berger. Il lui dit « J'ai faim. Je voudrais que tu me donnes à manger, mais je n'ai rien pour te payer que mon costume. » C'était son costume royal. Le berger lui donna quelques fromages et échangea le costume du roi contre sa pauvre gandoura, son pauvre manteau de berger. Le roi des rois vécut ainsi pendant 6 ans comme un pauvre gardien de moutons. Il était miséreux et vieillit très vite. Vers la fin de la 6e année, il trouva une place d'aide-charbonnier. Toute la journée, sous la canicule, il cognait contre les arbres et les débitait. Puis il empilait ses bûches, les couvrait d'argile et allumait ses feux pour faire du charbon de bois. Contre quoi son maître lui donnait une pauvre nourriture et un coin pour dormir. Le début de la 7e année arriva. Le patron charbonnier mourut et lui laissa l'échoppe, la boutique, en héritage. La 7e année touchait à sa moitié lorsque le prince de la ville où se trouvait le charbonnier fit proclamer un avis à la population. Tel jour, fermez tous les magasins. Le prince fera sortir ses femmes et ses filles en promenade à travers les rues de la ville. Le charbonnier, comme tous les autres commerçants, ferma sa boutique. Dans son exil, sa seule distraction avait été de jouer de la flûte. Il en modulait des sons très doux. Et cette flûte, pour qui savait l'entendre, racontait le triste voyage du roi, son exil et ses malheurs loin de son royaume. le cortège féminin, comprenant les 7 filles du prince, passa devant la boutique du charbonnier. La cadette des filles, la plus jeune, entendit la mélodie de la petite flûte et en comprit tous les accents. Revenue au palais, elle demanda à sa servante Aïcha, A-I-T-R-E-M-A-C-H-A, d'aller s'approcher de cette boutique pour faire la connaissance du charbonnier. Le rapport de la servante fut favorable. Or, c'était la coutume dans le pays, lorsque les filles, lorsqu'elles désiraient se marier, plantent un couteau dans une pastèque, c'est-à-dire un melon d'eau, et fassent présenter la pastèque à leur père. Le prince fut ainsi informé des vœux de ses 7 filles et fit passer un avis public invitant les hommes du pays candidats au mariage à se présenter à jour dit devant le palais. Chacune de ses filles reçut une pomme qu'elle devait envoyer aux prétendants choisis. Les riches marchands et les nobles seigneurs se rendirent donc en grand tralala devant le château, les uns dans un carrosse doré, les autres sur des chevaux dont les selles étaient ornées de tissus faits avec des fils d'or et d'argent. Le charbonnier s'y rendit aussi, dans un habit fait de toile à sac et sur le dos de son âne, de son bourricot. Il s'était muni de sa petite flûte dont il jouait tandis que son bourricot trottinait. La fille cadette du prince reconnut la mélodie si expressive du charbonnier et lui jeta sa pomme. Tous les hommes ayant reçu une pomme devaient se présenter devant le prince au cours d'une réception organisée par ses grands conseillers. Chacun fut scandalisé du choix de la cadette. Les 6 fiancés des sœurs aînées étaient particulièrement furieux. Pourtant, le prince respecta ce choix et il dit aux 7 prétendants : « Vous pouvez retourner chez vous, je vous convoquerai. » La nuit qui suivit, le prince était perplexe et en proie à l'insomnie lorsque Sidna Jabril, l'archange Gabriel, lui apparut et le conseilla. Monseigneur, ne vous tourmentez pas. Les 7 prétendants doivent subir des épreuves préalables qui vous permettront de les juger. Posez-leur comme condition qu'ils vous rapportent des pommes du jardin d'Alia Bent Mansour Chakseba Bohur, c'est-à-dire Aliya, fille de Mansour, séparée par 7 mères. On convoqua donc les prétendants qui acceptèrent l'épreuve. À la date fixée, ils partirent, les 6 à cheval et le 7e à bourricot. Les 6 prétendants des aînés caracolaient fièrement. Et le charbonnier disait à son bourricot pour l'encourager : « Hardi, vas-y, nous sommes tous les beaux-fils du sultan !» Mais au bout de quelques jours de marche à travers des pays désolés, les chevaux laissèrent loin derrière eux le bourricot. Alors Dieu envoya au charbonnier son ange Sidna Abdelkader, qui lui donna des pouvoirs merveilleux et le transforma en derviche, c'est-à-dire en ermite, habillé de laine blanche, avec une grande barbe. Les prétendants qu'il avait laissés à l'arrière le trouvèrent devant eux, assis sur une natte, ayant une gazelle à sa droite et une gazelle à sa gauche, et le Coran, le livre saint des musulmans, devant lui. Ce fut une surprise pour eux dans ce désert. Ils lui demandèrent conseil. « Es-salam alaykoum, ô saint homme, c'est-à-dire « La paix soit avec toi, saint homme. Nous sommes les prétendants des filles du prince. Mais le prince nous a fixé une épreuve difficile. Pouvez-vous nous dire où cueillir les pommes du jardin de Haliat Ben Mansour ? Volontiers, mais donnez-moi d'abord les harnais de vos chevaux. Ils les donnèrent et s'en retournèrent, sans selle et sans étrier, au pays du prince, à qui chacun remit la pomme donnée par le derviche. Ils arrivèrent en même temps que le charbonnier sur son bourricot, porteur d'une pomme identique. La cadette, la fille cadette du prince, envoya à nouveau Aïcha, sa servante, chez le charbonnier. Celui-ci fut étonné d'apprendre que depuis son départ, la jeune fille s'était cloîtrée dans sa chambre, refusait de voir qui que ce soit et voyait sa santé dépérir. Il remit à la servante pour elle un panier de pommes du jardin d'Alia Bent Mansour. Dès qu'elle y eut goûté, elle redevint éblouissante de santé. Les parents trouvèrent ce changement étrange. Le prince comprit que l'un au moins de ses futurs gendres était détenteur de grands secrets dans la connaissance, car une telle épreuve était très difficile, incertaine, et de toute façon exigeait des mois de travail, alors que le retour des jeunes hommes avait été très rapide. Comme ils sortaient tous pareillement vainqueurs de cette difficulté, le prince poursuivit son examen par un nouveau test. « Apportez-moi, dit-il au prétendant, du lait de la chamelle qui allait son petit. » C'était là une épreuve particulièrement dure, car il fallait trouver une chamelle, la femme du chameau, venant d'avoir un chamelon, le petit de la chamelle et du chameau, et ensuite s'approcher d'elle à un moment où ces bêtes sont particulièrement susceptibles et dangereuses pour défendre leur lait qui est la nourriture de leur enfant. Le lendemain matin, la caravane des sept prétendants s'ébranla. Les six à cheval, sur de fiers coursiers, richement caparaçonnés, et le septième sur son pauvre bourricot. Comme la première fois, l'archange Sidna Abdelkader vint au secours du charbonnier et le transforma à nouveau en derviche. Les cavaliers le trouvèrent devant eux, assis sur sa natte, encadré par ses gazelles, le livre du Coran devant lui. Ils le reconnurent et lui demandèrent comment se procurer du lait de la chamelle qui allait de son petit. Le derviche leur promit de leur en procurer à une condition. Ils devraient donner chacun un bout de leur petit doigt. Les six prétendants acceptèrent puisqu'ils n'avaient pas le choix. En retournant vers la ville, ils retrouvèrent le charbonnier et tous ensemble remirent au prince une part de ce lait précieux. Le prince se trouva donc confirmé dans son pressentiment que l'un des candidats avait le secret du chemin mystérieux. Le temps s'écoulait et on touchait à la fin des sept années de pénitence du roi des rois. Il était toujours dans son échoppe de charbonnier, puisque le prince, devant l'égalité des réussites des prétendants de ses filles, n'arrivait pas à formuler de jugement. Pourtant, un matin, il les convoqua au palais et leur montrant de sa fenêtre la montagne qui s'étendait en face d'eux, il leur dit « Êtes-vous capable de transformer cette montagne en plaine en 48 heures, en 2 jours et 2 nuits ?» De nouveau, les 7 prétendants enfourchèrent leur monture, 6 chevaux et un bourricot. De nouveau, ils rencontrèrent le derviche, le roi des rois, charbonnier, transformé en derviche par l'archange Abdelkader. Cette fois, le derviche exigea un bout du lobe de leur oreille. les 7 candidats montrèrent au prince le lendemain la plaine qui avait succédé à la montagne. Déconcerté, le prince pria le cadi, c'est-à-dire le juge, de préparer les 7 actes de mariage. Le charbonnier, ce jour-là, alla se reposer au café. Il avait compté qu'on était arrivé à la veille de l'anniversaire de ses 7 années de pénitence. Au café, il vit un client qu'il reconnut comme un de ses anciens sujets du temps où il était roi des rois. Il l'invita à le suivre dans son magasin, et là, il lui raconta ses aventures. Au fur et à mesure qu'il parlait, le voyageur reconnaissait son cher ancien roi des rois. Il lui dit comment les hommes de son pays, désolés par sa disparition, étaient partis sur toutes les routes pour essayer de retrouver leur souverain bien-aimé. Le charbonnier dit à l'homme que l'heure du retour allait sonner et qu'il voulut bien l'attendre car il aurait à lui faire transmettre un message important. Puis il se rendit au palais. Le cadi des cadis, c'est-à-dire le chef des juges, était en train de composer les 7 actes de mariage. Déjà, il avait écrit les dots des 6 prétendants, c'est-à-dire les cadeaux que les 6 prétendants devaient remettre aux princesses qu'ils épousaient. Moqueur, le magistrat en lut le modèle à celui qu'il croyait toujours être un simple charbonnier. Là où les autres promettaient 50 chevaux, le charbonnier en fit marquer 100. Là où il était prévu 100 pièces d'or, il en fit marquer 200. Et ainsi, des pièces de tissu d'or et d'argent, des bijoux, des pierres précieuses. Partout, le charbonnier offrait 2 fois plus que ce qu'offraient les autres prétendants. Le cadi trouva cette manière de faire peu sérieuse et il donna une gifle au charbonnier. Très calme, celui-ci dit « Cadi, veuillez ajouter en plus une gifle. » Le cadi refusa, mais le prince qui était présent fut d'accord pour qu'on écrivît dans le texte de l'acte de mariage. Le charbonnier retourna à son magasin et envoya son messager chargé d'une lettre où il demandait que ses ministres réunissent d'urgence la dot et l'envoient par caravane escortée de l'armée royale pour la cérémonie des noces. Au pays du roi des rois, ce fut une joie immense. La veille du jour du retour de la dot, le roi prit un bain, puis se vêtit d'un costume royal qu'il venait de se confectionner. Et il partit de nuit à la rencontre des siens. Le lendemain, dès l'aube, le muezzin, c'est celui qui monte au minaret de la mosquée, c'est-à-dire au clocher de l'église, pour appeler les croyants musulmans à faire leur prière. Le lendemain dès l'aube, donc, le muezzin, comme à l'accoutumée, monta au minaret de la mosquée du palais pour appeler la population à la prière. Mais quand il vit cette armée en marche, de frayeur, la langue lui fourcha, et au lieu de dire « Allah Akbar », il dit « Allah Iyastar », c'est-à-dire non pas « Dieu est le plus grand », ce qui est le début de la prière musulmane, mais « Dieu nous protège ». Le prince entendit le cri du médecin. Il se précipita à la mosquée, monta au minaret, vit sa ville encerclée par une armée et envoya immédiatement une délégation de ministres aux assiégeants pour leur demander des explications. Les ministres reconnurent en tête de l'armée royale le charbonnier et vinrent en rendre compte à leur maître. Celui-ci fit alors ouvrir toutes grandes les portes de la ville pour acclamer le septième gendre, le roi des rois, devant lequel tous s'inclinèrent jusqu'à terre. Le prince, qui souhaitait comprendre ce qui s'était passé antérieurement, demanda au prétendant : comment avez-vous pu obtenir les pommes du jardin d'Alia Bent Mansour Shabsba Bohur ? Sire, répondirent-ils, c'est un derviche qui nous les a données. Et comment avez-vous eu le lait de la chamelle qui allaite son petit ? Sire, c'est le même derviche qui nous l'a procuré. Et comment avez-vous pu transformer la montagne en plaine ? C'est toujours le derviche, sire, qui l'a aplani. Alors le roi des rois s'avança et dit : le derviche, c'était moi. Quelle preuve en donnez-vous ? Demanda le prince. Que mes compagnons, dit le roi des rois, étendent leurs mains et montrent leurs petits doigts. Qu'ils montrent aussi leurs oreilles, et nous verrons si les petits doigts et les oreilles sont complets. Les six prétendants étaient aussi honteux qu'au jour où le derviche leur avait confisqué leur harnais et où ils avaient dû revenir sans selle et sans étrier. Le prince était dans la joie que tout cela se termina de façon si heureuse. Le cadi fit compter les six dots apportées par les prétendants des filles aînées. Il fit aussi compter la septième dot. Quand il eut fini de compter, le roi des rois demanda : c'est tout, cadi ? C'est tout, dit le cadi. Non, il manque une gifle. Et le prince ordonna que le cadi qui avait giflé le charbonnier eut le poignet coupé. De grandes fêtes eurent lieu pour toutes ces noces. Le prince, qui, grâce à sa fille cadette, avait l'honneur de rentrer dans la famille du roi des rois, se félicitait en lui-même de ce que sa fille ait su un jour ouvrir son oreille et son cœur au son timide d'une flûte modulée par un charbonnier malheureux. Le onzième conte s'appelle « Le voleur du trésor du roi ». Tu n'en trouveras que le début sur la fin de cette cassette et la fin, bien sûr, sur le début de la première face de la troisième cassette. Il était une fois un père de famille qui était un grand bandit. Il suivit le sort de chaque homme et mourut un jour. Sa veuve éleva donc seule leur fils, Fati, F-A-T-H-I. La mère de Fati était une femme intelligente qui avait bien sûr connu le genre d'activité de son mari, mais qui veilla soigneusement à ce que le jeune garçon reçut une éducation et des connaissances convenables. Elle restait muette devant les questions de son enfant sur la vie de son père. Pourtant, lorsque ce fils unique atteignit 18 ans, elle fut dans l'obligation de lui dire la vérité. Le jeune homme demanda : mère, je voudrais que tu me donnes les outils de mon père. Ces outils ? C'est une corde et deux crochets. Une corde et deux crochets, mais que faisait donc mon père ? Eh bien, je te l'avoue, c'était le plus grand voleur du pays. Et la femme sortit du fond d'un bahut ses instruments. Le jeune homme les contempla, se retira pour réfléchir et essaya de savoir ce que l'on pouvait faire de cette corde et de ses deux crochets. Finalement, le lendemain matin, il dit à sa mère : donc je serai voleur comme mon père. Quel conseil peux-tu me donner ? Sa mère lui répondit : condition première et essentielle, choisir des camarades très sûrs et discrets. Ton père avait des hommes qui lui étaient dévoués à la vie et à la mort et qui savaient garder un secret. Il était leur chef et j'espère que tu sauras aussi être un chef. Le jeune homme sortit donc dans la ville, fréquenta les cafés, s'assit auprès des uns et des autres, noua des conversations avec les gens, les observa. Finalement, il détecta quelques jeunes garçons qui lui parurent sympathiques. Lorsqu'il arrivait à être en confiance avec l'un ou l'autre d'entre eux, il les questionnait en particulier. « Qu'est-ce que tu fais ?»«
Moi, je suis voleur. Et toi ?»«
Moi, je veux le devenir. Et qu'est-ce que tu voles ?» Et les garçons avouaient alors quelques petits larcins, des poules, une pièce d'étoffe, une paire de bas de bouche, une couverture. Il en choisit trois qui lui parurent intelligents, secrets et courageux. Les réunit et leur dit « Mes amis, vous risquez la prison et compromettez votre liberté pour des choses qui n'en valent pas la peine. Il est ridicule d'aller voler des objets insignifiants que le moindre travail normal pourrait vous permettre d'acquérir. Moi, je pense que si nous organisons une affaire ensemble, il faut qu'elle ait sa pleine signification. On ne peut prendre de l'or que là où il y en a. Et il n'y a d'or en quantité importante que dans le trésor du roi. » Les garçons objectèrent qu'en cas d'échec, il perdrait la vie. Fatih les rassura et leur dit que s'ils l'acceptaient comme chef, leur rôle serait sans danger et que lui, Fatih, se chargerait de tous les périls. Le pacte fut donc conclu. Fatih alla faire une reconnaissance préliminaire dans les alentours du palais royal. Il bavarda avec le gardien principal près du portail d'entrée. Au tournant de la conversation, il se fit indiquer les fonctions des principaux bâtiments. Isolés et bien gardés, se trouvait au milieu du parc la maisonnette du trésor du roi. Le jeune chef organisa son plan. À la nuit, il disposa ses camarades près des voies d'accès des remparts du palais pour qu'il prête éventuellement main forte. Puis il lança un crochet sur la cime crénelée du mur d'enceinte du parc, grimpa le long de la corde ainsi fixée, planta à nouveau un crochet au sommet du mur et se laissa glisser sur sa corde le long de la paroi interne de la clôture. Il jeta ensuite ses engins, la corde et les crochets, à ses camarades par-dessus le mur, et les camarades le suivirent. Une fois dans le parc, ils surveillèrent les gardes de la maison du trésor, dont quelques-uns dormaient en se confiant à celui qui faisait la ronde. Entre deux rondes, Fatih lança un crochet sous le toit, grimpa après sa corde, souleva des tuiles, fit un trou dans le plafond, descendit dans la chambre de l'or et rempli des sacs de pièces d'or. Il avait donné la consigne de le rejoindre quand il secourait la corde. Ses camarades vinrent donc le retrouver pour charger les sacs et les sortir par le même chemin. En une seule fois, la moitié du trésor royal fut ainsi volée. À la maison, la mère, qui avait l'habitude des caches secrètes, mit cet or en sécurité. Les quatre camarades étaient riches pour la vie. Le lendemain, un garde aperçut le plafond du magasin du trésor fendu. On avertit le roi. celui-ci constata qu'on l'avait volé. Perplexe, le monarque alla demander l'avis de son grand conseiller, Cheikh El-Moudabar, C-H-E-I-K-H, plus loin E-L, plus loin M-O-U-D-A-2-B-A-R, pour savoir comment arriver à arrêter ces voleurs. Le grand conseiller suggéra le stratagème suivant. Sire, que votre majesté organise une grande fête à laquelle elle invitera tous les hommes du pays. Que le service des vins soit généreux. Déguisez quelques gardes en provocateurs. Et quand les gens seront ébranlés parce qu'ils auront trop bu, que ces provocateurs clament leur soi-disant prouesse. Moi, j'ai fait ceci, moi, j'ai été capable de cela, j'ai volé par-ci, j'ai assassiné par-là. Votre homme sera pris par la contagion et se vantera d'avoir dévalisé le roi. Fatih fut donc invité comme chacun des citoyens du pays. Il demanda conseil à sa mère, mais elle lui déconseilla de se rendre à ce festin. « N'y va pas, c'est un piège, lui dit-elle. » Les trois autres camarades étaient du même avis. Malgré cela, Fatih se rendit au banquet du roi. Il fit largement ripaille, tendit sa coupe à tous les vins, et finit par se laisser gagner par l'euphorie générale. Les provocateurs commencèrent à raconter leurs truculentes histoires. Chaque fanfaron y ajoutait la sienne. Finalement, Fatih s'écria, « Pah ! Bah ! Vous avez chapardé quelques poules ou quelques moutons, mais c'est un enfantillage. Moi qui vous parle, j'ai volé le trésor du roi. » Les gardes échangèrent un clin d'œil. On laissa les invités s'endormir pour éviter le scandale. Et quand Fatih fut plongé comme les autres dans un lourd sommeil, un garde s'approcha de lui et le marqua en lui coupant la moitié de sa moustache. Puis les soldats, sûrs de reconnaître leur homme, se retirèrent jusqu'au matin, où il se proposait de surveiller la sortie et d'arrêter celui qui n'aurait qu'une demi-moustache. Mais à minuit, quand Fatih eut achevé sa digestion et récupéré sa lucidité, il essaya de comprendre les lieux et de se rappeler les événements de la veille. Enfin, il se passa la main sur la figure pour achever de reprendre ses esprits. Il s'aperçut alors qu'il n'avait plus qu'une moitié de moustache. Il se rappela ses propos imprudents et comprit qu'il s'était démasqué. Il fouilla alors dans sa poche, en sortit un couteau et coupa de même une demi-moustache à tous les hommes qui l'entouraient. Au matin, les gardes qui veillaient sur la sortie se trouvèrent devant une foule d'invités à demi rasés et comprirent que leur stratagème avait été déjoué. Ils les menèrent en prison, provoquant une protestation générale. Le roi, informé, fit libérer les prisonniers et, fort déçu, retourna chez son conseiller, le Cheikh El-Moudabar. Le Cheikh El-Moudabar dit au roi, « Nous allons essayer de sauver la moitié restante du trésor. Que votre majesté fasse semer des pièces d'or sur toute la route qui passe devant son palais. Les gens vont les voir. ceux qui sont honnêtes ne se baisseront pas pour les ramasser et viendront donner l'information. Mais le voleur ne pourra pas se dispenser de dérober quelques pièces. Vos gardes seront aux aguets et n'auront qu'à se saisir de sa personne. Ainsi fut fait. Fatih, qui était perpétuellement à l'écoute de tout ce qui se passait, en flânant dans les rues de la ville, fut immédiatement informé par la rumeur publique de ce que des louis d'or étaient semés sur toute la grande route. Il le constata d'ailleurs par lui-même. Il alla donc voir sa mère et lui fit part de son projet de ramasser cet or. Sa mère lui dit « N'y va pas, c'est un piège. » Les trois autres camarades étaient du même avis. Mais Fatih poursuivit son propos. Il alla acheter dans un pays voisin 200 chameaux et demanda à sa mère de lui préparer 200 couvertures pour ses chameaux. Ces couvertures devaient être formées de deux pièces d'étoffe cousues par le milieu, de telle sorte que l'une des moitiés de la couverture sur le flanc droit du chameau était jaune et l'autre moitié sur le flanc gauche était rouge. Comme il était le chef, il ordonna à ses camarades d'aller à la forêt pour y recueillir dans les plaies des arbres de la glu, une espèce de résine collante, tandis qu'il partit acheter de somptueux foulards de couleur or, des tuniques rutilantes et des ceintures de cuir rehaussées de corail rouge pour lui et ses trois compagnons. Quand tout fut prêt, il enduisit de glu les pieds des 200 chameaux. Les animaux furent revêtus de leurs couvertures. Les quatre garçons se costumèrent avec les petits turbans et les tuniques dorées en bédouins de féerie. La caravane fut massée en dehors de la ville sur la route semée de pièces d'or. Puis, à un signal de Fatih, il fut convenu que les quatre caravaniers, escortant leurs chameaux, feraient défiler la troupe au grand galop sur la troupe qui passe devant le palais du roi et jusqu'à la forêt. Les gardes du roi étaient embusqués partout le long du chemin, derrière les buissons, dans les fossés, au créneau des remparts. Ils furent stupéfaits de voir arriver une pareille caravane. Ils n'avaient jamais vu une féerie pareille, avec des chameaux parés, des bédouins costumés comme des sultans, le tout dans un nuage de poussière dorée qui donnait à ce défilé une auréole de gloire et d'irréel. Les bras leur en tombèrent. Ils tombèrent bien davantage quand ils se rendirent compte, après cet éblouissement, qu'il ne restait plus une pièce d'or à terre. En effet, nos quatre compagnons avaient emmené leurs chameaux à la forêt où Fatih dégagea les jambes de ses bêtes de la glu mêlée à la poussière et aux pièces d'or de la route. Il mit cette espèce de boue dans de grandes jarres et la décanta, c'est-à-dire qu'il laissa tomber les pièces d'or qui étaient plus lourdes au fond et recueillit ainsi précieusement la seconde moitié du trésor du roi. Fin de la deuxième piste de la deuxième cassette, page 106, Deux grains de grenade, conte du Maghreb, par Gisèle Milly. Tu trouveras la suite et fin de l'histoire du voleur du trésor du roi sur la troisième cassette. À bientôt.